Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Jean chapitre 10. Et aujourd'hui, mon texte se trouve du verset 31 jusqu'au verset 42, le dernier verset du chapitre. Et je voudrais vous parler du Seigneur Jésus face à l'incrédulité des hommes. Parfois, nous pouvons nous décourager de nos jours lorsque nous présentons le Christ de la Bible aux gens et surtout les hommes et les femmes religieux, et nous voyons leur réaction contre ce que nous leur disons, ce qui est clairement révélé dans les Écritures et surtout ce que Dieu par sa grâce nous a révélé. Et nous pouvons peut-être nous décourager face à l'incrédulité des gens. Mais nous devons savoir que l'incrédulité des cœurs n'est pas quelque chose de nouveau. Que même lorsque Christ était sur cette terre, il faisait face à cette incrédulité. Et donc, nous pouvons voir que si les hommes se sont opposés à Christ, ça ne doit pas nous étonner s'ils s'opposent à nous. Mais nous voulons voir à travers cette leçon comment Christ, notre Seigneur lui-même, a fait face à l'incrédulité des hommes et comment, malgré l'incrédulité, il continuait à appeler à lui-même ceux qui lui appartenaient. Alors, dans Jean chapitre 10, ça commence avec verset 31, « Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. » Je peux dire que durant toutes les années que je prêche cet évangile précieux du Seigneur Jésus-Christ, je n'ai jamais fait face encore à ma connaissance à une foule qui est allée jusqu'à prendre des pierres pour me lapider. Bien vrai, peut-être dans leur esprit, et leur cœur, c'était la haine qui était là, mais c'est Dieu qui les empêchait. Mais ici, nous voyons que les Juifs, c'est écrit, prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est-à-dire, ce n'était pas la première fois. La dernière fois que nous avons vu cela, c'était dans Jean chapitre 8 et le verset 59, où ils ont pris des pierres du trottoir. Ici, le mot qui est utilisé est un mot qui désigne des morceaux un peu plus énormes, surtout de marbre qui traînait dans les travaux publics. Et ils ont commencé à masser ou casser ces pierres pour les jeter contre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais même cela ne l'a pas poussé à fuir. Il faisait face même à leurs intentions les plus cruelles. Et c'est écrit dans le verset 32, Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondit, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même, vous lui dites, tu blasphèmes? Est-ce là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc même face à leur incrédulité et vu leurs arguments, il ne s'est pas retiré de ce point de qui il est et pourquoi il est venu. Parce qu'il est la vérité, donc il ne peut que dire la vérité. Et il insiste là-dessus que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, il cherchait encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Ça ne dit pas comment il s'est échappé, mais nous savons dans sa souveraineté, ils n'ont pas pu toucher à Christ et accomplir leur dessein, puisque Dieu a déjà déterminé d'avance qu'il devait mourir à la croix et non pas par la lapidation. Alors Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Et voilà, dans le verset 41 et 42, où nous voyons la souveraineté de Christ et le fait que, quelle que soit l'incrédulité des hommes, cette incrédulité ne peut pas l'empêcher, ne pouvait pas l'empêcher d'appeler à lui-même ceux pour qui il est venu. Et cela m'encourage beaucoup, parce que quand je vois l'incrédulité dans le monde, je dois dire que cette même incrédulité réside dans mon cœur, parce que je suis aussi né dans ce monde, dans cette incrédulité. Mais c'est la grâce de Dieu envers moi, le pécheur, qui a surabondé là où il y avait cette incrédulité, et l'Esprit de Dieu m'a amené à Christ et m'a donné la foi et la repentance envers lui. Et c'est ce que nous voyons ici, verset 41, beaucoup de gens vinrent à lui. Et ils disent, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Ça, c'est important, en ce lieu-là. Dieu sait où se trouvent les brebis. Et peut-être que dans un certain endroit, comme c'était le cas à Jérusalem, il y avait un grand nombre d'incrédules, ceux qui ne voulaient pas le recevoir. Mais lorsque Christ s'est déplacé pour aller au-delà du Jourdain, il allait là parce qu'il y avait là ces pécheurs-là qu'il devait appeler à lui-même. Donc, l'incrédulité des hommes ne peut pas empêcher Christ d'achever et d'accomplir l'œuvre qu'il est venu faire. Et cela doit nous encourager lorsque nous sortons pour prêcher l'Évangile et nous témoignons dans un monde d'incrédules. Nous devons savoir que Dieu sait qui sont ceux qu'il a élus dans sa grâce depuis l'éternité et qui sont ceux pour qui Christ est mort et il les appellera en son temps. Nous avons vu ça dans Jean chapitre 1 pour débuter notre étude dans cet évangile selon Jean. Bien vrai, Christ, la parole, c'est écrit dans le verset 11, est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les siens, s'agit là des Juifs, des gens qui avaient les Écritures. Et même quand Christ est venu, quand même, n'ont pas cru en lui. Mais c'est écrit dans le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, cela indique déjà qu'il y en avait qui devaient le recevoir, à ceux qui croient en son nom. C'est comme ça que nous recevons le Seigneur Jésus, c'est de croire en son nom. Cela ne veut pas dire de simplement répéter une prière comme les gens enseignent aujourd'hui. Et si vous répétez cette prière avec sincérité, alors vous pouvez être sûr de votre salut. Non, croire en son nom, c'est la même chose que nous avons vu de ceux qui se sont approchés de Christ au-delà du Jourdain, où ils ont témoigné concernant Jean-Baptiste, qui a été envoyé devant le Seigneur pour préparer le chemin, et qui n'avait fait aucun miracle. C'est intéressant, Jean n'a fait aucun miracle, pourtant c'était ce que les gens cherchaient. Mais ils ont dit tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Donc ils ont cru au témoignage du prophète du Seigneur. Comme nous, nous croyons au témoignage de ceux que l'Esprit a utilisé pour écrire cette parole inspirée. Je n'ai jamais moi-même entendu la voix du Christ avec mes oreilles. Mais comment est-ce que je crois en son nom? C'est à travers cette parole que nous avons ici, cette parole inspirée, à travers ce que les prophètes et les apôtres que Dieu a suscité ont témoigné de lui. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Donc, tous ceux qui l'ont reçu, c'est de recevoir et de croire le témoignage de Dieu à travers les Écritures. C'est ça la signification de croire en son nom. Croire tout ce qui concerne son caractère et ses attributs en tant que Dieu dans la chair. Mais c'est écrit aussi dans le verset 12, elle, c'est-à-dire la parole, Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne faut pas imaginer que cette croyance vient par la logique ou bien à travers le débat et le raisonnement humain. Non. Même ceux-ci dans Jean 10 qui ont cru malgré l'incrédulité des cœurs, ils ont cru parce que c'était Christ lui-même par son esprit qui s'est révélé en eux. Et ainsi, ils ont cru. C'est lui qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est écrit, lesquels sont nés, non du sang. Ce n'est pas le fait d'être né juif qui leur a donné maintenant le droit à Christ. Non, non du sang, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas par un quelconque libre arbitre en l'homme que vient la croyance. Et c'est écrit, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas par le raisonnement des hommes, mais de Dieu. Alors je remercie le Seigneur que c'est ainsi. Autrement, il ne devait pas avoir des gens qui pouvaient croire en lui. Donc revenons dans notre texte ici dans Jean 10 et nous allons faire une comparaison entre l'incrédulité des hommes et Christ, la parole, qui faisait face à leur incrédulité et qui, lorsqu'il a fini avec eux, il n'avait aucune excuse de ne pas croire en lui, sauf il ne voulait pas, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors ces Juifs, dans le verset 31, à quoi ils s'opposaient? Quand c'est écrit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. C'est à cause de ce que Christ avait dit dans les versets précédents, témoignant de lui-même, et disant exactement ce que le Père lui a donné de dire. Et c'était que, dans le verset 25, il dit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Voilà ce qui a touché ces Juifs et les poussé maintenant à vouloir le faire mourir, parce que leur dire que vous n'êtes pas de mes brebis, ils se considéraient déjà comme brebis de Dieu. C'est un terme utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire la nation d'Israël, où Dieu était le bon berger et Israël, la nation, selon leur compréhension, était représentée par les brebis. Donc, pour Christ de venir et dire tout d'abord qu'il était lui-même le bon berger, pour eux, il se mettait à la place de Dieu, et avec raison, parce qu'il est Dieu. Mais le point touchant, c'est de dire, vous n'êtes pas de mes brebis. Si vous voulez faire fâcher des gens, il faut dire ça aux gens qui se trouvent dans les assemblées aujourd'hui qui se disent chrétiens. Et leur dire par l'incrédulité de leur cœur, en s'opposant au Christ souverain de la Bible, ils se démontrent par là qu'ils ne sont pas des brebis de Dieu. C'est pour dire qu'ils ne sont pas élus, ils ne sont pas enfants de Dieu. Il est vrai, nous devons faire attention parce que nous sommes tous nés dans ce monde dans l'incrédulité. Et pourtant, nous sommes élus de Dieu et Christ a payé notre dette, mais ce n'était pas encore le temps où l'Esprit s'est révélé en nous ou bien a révélé Christ en nous. Donc, nous, dans notre incrédulité, on apparaît comme étant comme le reste du monde. Mais si des gens persistent dans leur incrédulité et que Dieu ne leur donne pas cette foi en Christ, là, c'est une preuve alors qu'ils n'étaient jamais des brebis. Notez la manière que c'est écrit. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Il ne dit pas, bon, puisque vous ne croyez pas, alors je ne vous reconnais plus comme brebis. Ce n'est pas ce qu'il dit. Cette incrédulité, si un homme est né dans l'incrédulité et continue dans l'incrédulité jusqu'à la mort, c'est qu'il n'a jamais été de ce nom de brebis. Parce que Christ dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et notez verset 28, parce qu'il s'opposait déjà à la vérité que Christ était Dieu dans la chair. Alors quand Christ dit, je leur donne la vie éternelle. Qui peut donner la vie éternelle si ce n'est pas Dieu lui-même? Donc, quand il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Déjà, il se met à la place de Dieu. Et voilà le point sur lequel ils ont dû insister quand Christ leur demandait, mais voyant les bonnes œuvres que je fais, pour quelle œuvre alors est-ce que vous voulez me lapider? Dans le verset 33. Et ils ont dit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. C'est comme des gens aujourd'hui, ils ne sont pas contre un Jésus qui fait des miracles et qui se déplace pour faire le bien aux gens. Mais ils disent pour un blasphème et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alors, il renonçait au témoignage de Christ, et Christ est la vérité. Vous ne voyez pas comment alors cela augmente davantage la condamnation des pécheurs pour ne pas croire à ce qui est clairement révélé concernant Christ. Ce n'est pas seulement qu'il s'est fait Dieu, mais qu'il est Dieu. Et lorsqu'il a insisté dans le verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Les pharisiens, les hommes religieux, plus les foules suivaient Christ, plus ils essayaient de les empêcher. Mais en fin de compte, les seuls qu'ils ont pu empêcher n'étaient pas les véritables brebis, c'était des gens laissés à leur propre condamnation. Comme ici à la fin de ce chapitre, malgré l'incrédulité, surtout venant des hommes religieux, ce sont des gens les plus méchants parce qu'ils se font des idées concernant Dieu, concernant le salut, concernant l'avenir. Et c'est à ça qu'ils s'attachent au lieu de croire à ce que dit Christ. Mais ce que Christ est venu chercher et sauver, personne ne pouvait l'empêcher. Ni les hommes, ni le diable, ni le monde, quelles que soient leurs intentions. Et c'est pourquoi quand Christ dit « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est vrai qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça c'est la divinité. Mais en ce qui concerne Christ, dans sa nature divine, tel Père, tel Fils, moi et le Père, nous sommes un. Et voilà le point sur lequel ils ont pris des pierres pour le lapider. Quelqu'un peut demander donc si nous ne croyons pas que le Seigneur Jésus est Dieu, alors nous sommes perdus et la réponse est claire et nette, oui. Ceux qui ne croient pas à la divinité du Christ sont encore dans l'aveuglement, dans les ténèbres. Et si Dieu n'intervient pas dans sa grâce et par son esprit pour les attirer à Christ dans la vérité, révélant en eux qu'il est dans toute sa divinité, alors ils mourront exactement comme ils sont nés, dans la condamnation, sous la condamnation. On ne peut pas croire au nom de Jésus et ne pas croire qu'il est Dieu. Et un point ici sur lequel je voudrais insister parce que il y a toute une génération qui dit « Ah oui, je crois que Jésus est Dieu. » Donc, ils acceptent ça comme un point de doctrine. Mais quand on leur demande alors, en tant que Dieu, étant Dieu, est-ce que le Seigneur Jésus tient le pouvoir alors de donner le salut à qui il veut, sauver qui il veut et condamner qui il veut? C'est là qu'ils disent, ah non, mais là, ça dépend de l'homme. Donc, tout en faisant cette déclaration, ils renoncent au nom de Jésus en tant que Dieu. Parce que s'il est Dieu, cela veut dire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Et en ce qui concerne le salut, c'est le cas que le salut est entre les mains du Christ, exactement comme il a déclaré à ses Juifs, « Je leur donne la vie éternelle. » Il donne cette vie éternelle à ses brebis et non pas à tout le monde. Ceux qui disent, « Oui, je crois que Jésus est Dieu. » Mais en même temps, ils croient que Jésus est venu dans le monde pour tenter de sauver tous les hommes, tous les êtres humains. Pourtant, tous les êtres humains ne sont pas sauvés. Alors, la question doit être posée, dans quel sens alors est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que Dieu a jamais raté en quoi que ce soit son plan? Ou ne pas achever ce qu'il a ordonné. C'est impossible. Donc, il faut dire que nous avons, même aujourd'hui, beaucoup qui, oui, ils disent que Jésus est Dieu. Pourtant, on ne lui donne pas la gloire en tant que Dieu. Alors, c'est pourquoi le Seigneur Jésus parlait de ses œuvres qu'il faisait. Quand il dit dans le verset 32, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Dans quel sens est-ce que ces œuvres sont venues de son Père? Quand il parle de plusieurs bonnes œuvres, telles que guérir les malades et toutes sortes de maladies, qui peut guérir si ce n'est pas Dieu lui-même? Ou bien déposséder les démons? Qui peut avoir le pouvoir sur le diable, si ce n'est pas Dieu lui-même, ou bien purifier les lépreux, rendre la vue aux aveugles, faire parler les muets, faire entendre les sourds et faire marcher les boiteux. Qui peut faire cela si ce n'est pas Dieu lui-même? Mais c'est pour démontrer aussi que ces bonnes œuvres n'étaient pas simplement des œuvres de puissance pour démontrer la puissance de Dieu, mais plutôt de miséricorde et de bienfaisance. C'est-à-dire, c'est pourquoi Christ est venu. À travers ses œuvres, il démontrait son pouvoir de démontrer sa miséricorde envers qui il voulait. Il faut dire qu'il restait beaucoup de malades qu'il n'a pas guéri. Et même ceux qui étaient guéris, ce n'étaient pas tous ceux qui étaient nécessairement de ses élus, mais c'était une démonstration de sa miséricorde en tant que Dieu, qui fait miséricorde à qui il veut et qui endurcit qui il veut, comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9. Mais ces œuvres sont appelées de bonnes œuvres parce que venant de Dieu, il n'y a point de bon si ce n'est Dieu lui-même. C'est Dieu seul qui est bon. Il n'y a aucune bonté dans l'homme. Nous sommes pleins de péchés. Donc tout cela était pour démontrer non seulement le caractère de Christ en tant que Dieu, mais de dire aussi que son Père est celui qui a prouvé tout ce que Christ faisait. Et la preuve était à travers sa bénédiction et ses guérisons. C'était de cette manière que les gens devaient savoir que ceci était véritablement le Messie que les gens devaient attendre. Dans Ésaïe chapitre 35, par exemple, et le verset 5, nous voyons prophétiser dans l'Ancien Testament la manière que lorsque Christ serait venu, les gens devaient savoir qu'il était effectivement celui que l'Ancien Testament annonçait. C'est écrit dans le verset 4 à la fin, « Il viendra lui-même et vous sauvera. » Donc, il est venu pour chercher sauver ceux qui étaient perdus. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alors voilà un verset dans l'Ancien Testament que si ces hommes religieux qui devaient bien connaître les Écritures devaient savoir à travers ces bonnes œuvres que Christ accomplissait qu'il était effectivement celui dont les Écritures parlaient, qui n'est pas venu simplement témoigner de lui-même, mais ses œuvres témoignaient de lui. Et que c'était le Père qui faisait ses œuvres à travers son Fils. Rappelons-nous quand dans Matthieu chapitre 11, si vous voulez voir là, Matthieu chapitre 11, même Jean-Baptiste à un moment donné avait besoin de se rassurer que Christ était effectivement qui il était. Il était en prison, emprisonné. Et dans la solitude, il avait même en lui-même des questions. Est-ce que véritablement le Christ ou pas? Et dans le verset 2 de Matthieu 11, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Et ici, alors le Seigneur Jésus-Christ est en train de citer les passages de l'Ancien Testament. « Les aveugles voient, Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et puis il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, comme pour ces Juifs-là qui voulaient lapider le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quelle autre preuve est-ce que les hommes ont besoin pour savoir que le Seigneur Jésus n'était autre que ce Christ qui était annoncé? Et il faut dire que, alors, cela a fait changer le point d'argumentation de ces Juifs, parce qu'ils s'approchaient du Seigneur Jésus avec la logique. Alors, Christ ayant arraché de cette arme-là, ils se sont tournés de nouveau vers un autre argument pour dire, les Juifs lui répondaient, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais même en disant cela, il ne s'était pas soumis encore aux Écritures. Cela devait suffire, mais ils ont trouvé un autre argument, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, et bien vrai, il était un homme, tu te fais Dieu. Alors, on peut dire que pour eux, ils avaient raison, selon le livre de Lévitique dans la loi, si effectivement Christ n'était pas Dieu, et qu'il disait qu'il était Dieu, nous pouvons dire que cela devait être effectivement un blasphème. Imaginez aujourd'hui si quelqu'un rentre parmi nous déclarant qu'il est Dieu dans la chair, on allait dire, mais tu blasphèmes, exactement comme ces hommes. Mais en ce qui concerne Christ, c'était la vérité. Il était Dieu dans la chair. Et il témoignait de cette unité qu'il y avait avec lui et son Père. Mais dans Lévitique chapitre 24, donc c'est pour dire que ces hommes religieux se basaient même sur les Écritures pour confronter Christ. C'est comme des gens font aujourd'hui. Ils ne veulent pas accepter le Christ de la Bible qui est souverain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur la Bible pour condamner ce message clair de la souveraineté du Christ. C'est la même incrédulité qui domine aujourd'hui dans les cœurs des gens. Et les gens peuvent trouver des versets pour appuyer sur leur raisonnement. Mais pourquoi ils croient comme ils croient, ils font ce qu'ils font? Si Dieu laisse les hommes à leur sens réprouvé, ils peuvent lire la Bible et croire que le salut est par les œuvres. Ils vont dans la loi et disent, ah, voilà ce que Dieu dit, donc si vous ne faites pas ça, vous êtes condamnés, donc il faut faire ceci, faire cela, c'est comme ça, ils prêchent les œuvres. Pourtant, la loi n'a jamais été donnée comme moyen de salut. C'était afin que toute bouche soit fermée, tout le monde soit rendu coupable devant Dieu. Tant que les lèvres sont en train de bouger et les gens sont en train de raisonner et parler, c'est qu'ils ne se sont pas soumis dans leur cœur à ce pourquoi Dieu a donné cette loi. C'était afin que la bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc eux, ils se sont basés pour lapider Christ. Ils se sont basés sur la loi et ils pensaient servir Dieu tout en condamnant celui qui se disait son fils. Dans Lévitique chapitre 24 et le verset 16, c'est écrit, verset 15 plutôt, « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc, ils se sont appuyés même sur les Écritures pour donner raison à lapider le Seigneur. Mais le problème, c'est que Christ n'était pas en train de blasphémer en disant qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est sur ça que Christ est allé maintenant dans le verset 34, Il s'est défendu par les Écritures. Christ qui est la parole, utilisait la parole pour se défendre devant les hommes. Christ ne disait rien concernant lui-même ou concernant sa venue dans ce monde qui n'était pas en rapport avec la parole. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 34, « N'est-il pas écrit dans votre loi ?» Quand il parle là de la loi, il parle pas seulement des cinq premiers livres de la Bible, mais le mot « loi » ici comprend toutes les Écritures de l'Ancien Testament. C'était la loi. C'était l'ordonnance de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Et surtout, ici, quand il dit « j'ai dit, vous êtes des dieux », alors si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Il est en train de citer un passage dans le livre des Psaumes, si vous voulez regarder là avec moi pour mieux comprendre cet argument. Dans Psaume chapitre 82, et à partir du verset 6, c'est ça le passage qu'il cite quand il dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Il est en train de parler là de ceux que Dieu a placés dans des positions d'autorité, comme des rois, et même des prophètes et des sacrificateurs. Ils étaient placés là par l'autorité de Dieu pour servir Dieu dans ces positions-là, comme s'ils étaient eux-mêmes à la place de Dieu. C'est ça le sens de « vous êtes des dieux ». Le mot « Dieu » là, c'est le mot « Elohim » dans l'Ancien Testament, et c'est le mot qui est utilisé pour décrire un magistrat. Donc, ça démontre la manière que Dieu gouverne dans le monde. Il a placé ses hommes pour le représenter. Nous voyons cela surtout dans Romains chapitre 13. Et cela s'applique même aujourd'hui. Ça peut être des gens dans des positions d'autorité qui sont placés là par Dieu et qui doivent alors gérer le peuple selon le Dieu qui les a placés là. Mais encore, les hommes sont des pécheurs, donc ils tiennent leur pouvoir pour leurs propres intérêts et non pas pour Dieu. Mais peu importe, ils sont là parce que Dieu les a placés là. C'est pourquoi Christ se réfère à l'Ancien Testament pour dire ceux-là sont des dieux. Ce n'est pas à dire qu'ils sont eux-mêmes Dieu, mais ils sont à la place de Dieu en ce qu'ils ordonnent. Et ici dans Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, Christ est en train de poser cette question à ceux-là. Si vous-même, selon les Écritures, vous reconnaissez des gens qui sont dans ces positions de pouvoir comme étant des dieux, cela veut dire placés là par Dieu, pourquoi alors celui que Dieu a envoyé dans ce monde, vous contestez maintenant au fait qu'il se dit enfant de Dieu ou bien fils de Dieu? Je peux dire que tous ceux dans l'Ancien Testament, chacun à son degré, étaient un type de la vie incarnée du Fils de Dieu. Il y avait trois positions dans l'Ancien Testament et ceux-là étaient loin de Dieu. C'était les prophètes, et les sacrificateurs et les rois. Alors, ils étaient placés là dans ces positions d'autorité pour représenter Dieu, mais ils étaient dans ces positions des types de celui qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ. Ceux de l'Ancien Testament représentaient le Seigneur Jésus, chacun dans sa désignation, mais en Christ, ils étaient les trois à la fois. En tant que sacrificateur, il est venu donner sa vie pour satisfaire à la justice de Dieu à l'égard de son peuple. Il était le prophète parce qu'il, comme il fait ici, témoignait, annonçait la volonté de son Père, et il était et est le roi, souverain en toutes choses. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité, il est monté au ciel, là où il règne, maintenant pour toujours. Alors, les gens n'ont pas de problème pour reconnaître ces autres hommes dans ces positions comme étant là, placés là par Dieu, mais quand Christ lui-même maintenant se présente, ah voilà, ils disent qu'il blasphème. C'est comme je trouve beaucoup aujourd'hui, ils n'ont pas de problème pour parler de l'élection tant que c'est l'homme qui fait le choix. Ils n'ont pas de problème, mais quand il s'agit de Dieu maintenant qui fait le choix et qui décide qui doit être sauvé ou pas, alors c'est là maintenant on voit l'incrédulité de leur cœur. Mais en tout cela, rien n'empêche notre Seigneur Jésus de faire son œuvre. Christ a dit dans le verset 37, « Je ne fais pas les œuvres de mon... Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » C'est tout simple. Si Christ n'est pas qui il dit qu'il est, alors il faut fermer cette Bible et continuer. Mais, verset 38, « Si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Vous ne voyez pas combien cette union entre le Père et le Fils est tout le salut des pécheurs. Même s'il y en a qui ne veulent pas croire que ses œuvres qu'il faisait démontraient qu'il était le Fils de Dieu, mais alors tout le témoignage de la Bible témoigne de sa personne qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Et tout le salut réside là. Le salut ne consiste pas de ce que le Père a décidé et ce que le Christ a fait, mais maintenant, ça attend maintenant notre décision. Non. Tout le salut est dans cette relation entre le Père et le Fils, et que Christ est venu en tant que Fils de Dieu pour satisfaire à toutes les exigences de Dieu le Père, afin que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs qu'il est venu sauver. Mais vous voyez, là où il y a l'incrédulité, là où Dieu laisse les hommes à leur sens réprouvé, cette incrédulité restera toujours, comme c'est écrit ici, là-dessus, verset 39, « Ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. » Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas mettre la main sur Christ parce qu'il est monté au ciel, il est assis, il règne, et il est en train d'intercéder pour chacun pour qui il est mort. Donc, c'est pourquoi cette opposition revient souvent sur ceux qui lui appartiennent sur cette terre. Donc, nous ne devons pas nous étonner de l'opposition que nous pouvons endurer aujourd'hui. Mais sachons, comme c'est écrit à la fin de ce chapitre, que ceux qui appartiennent à Christ, et nous pouvons donner notre propre témoignage de cela, parce que je suis né dans ce monde incrédule, comme ces autres. Mais il est arrivé un moment où Dieu m'a arrêté, et par son esprit, il m'a montré que dans toutes les Écritures, ces Écritures témoignent de la gloire de Christ et Christ seul et de sa mort efficace accomplie à la place de ceux qui sont ses brebis. Et c'est ainsi par son esprit que j'ai cru Alors, nous pouvons anticiper que Dieu continuera à faire cette même œuvre aujourd'hui à travers la prédication de l'Évangile de Christ. Et c'est pourquoi nous devons prendre courage et ne jamais reculer, quelle que soit l'incrédulité, de continuer à annoncer le Seigneur Jésus, souverain, qui est le sacrificateur et qui est le prophète de Dieu. C'est sa parole qui convainc les pécheurs et c'est lui le roi. Et il attire effectivement chacun qu'il est venu sauver. Alors que son nom soit glorifié. Amen.